vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà
non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast de foot, culture et société. Dans ce nouvel épisode, j'ai reçu Vikash Dorasso. Si aujourd'hui il est installé comme une personnalité médiatique et engagée, on a un peu tendance à oublier le joueur de foot qu'il était. Double champion de France avec Lyon, finaliste de la Ligue des Champions avec le Milan AC et de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Dorasso a en effet eu une carrière bien remplie qui a commencé au Havre, sa ville d'origine et club de cœur. Outre sa carrière qu'il raconte sans détour, Dorasso nous parle aussi de son engagement à travers son association Tatane et parle en longueur de sa vision du football. Et je vous laisse découvrir tout ça dans ce nouvel épisode de Banquette. Bonjour Vikash.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va ? Super.
Ça va. Bah écoute, merci beaucoup de venir dans Banquette. Et je dois te dire, quand j'ai commencé à animer l'émission il y a une saison déjà, on m'a souvent demandé, mais quand est-ce que tu fais Vikash Dorasso ? C'est comme si c'était une évidence de t'avoir dans Banquette. Non, je t'assure.
T'as vu le nom de l'émission ?
Non. Mais tu sais pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que pour les gens, t'es plus qu'un footballeur. En fait, t'as dépassé un peu cette image de footeux. Mmh. On limite, j'ai l'impression que les gens oublient ou ont oublié que t'as été joueur à Lyon, Milan, PSG, au Havre. Et toi, comment tu sens ce regard des gens par rapport à ta carrière, même l'après-carrière qui est un peu pris le dessus dans l'imagerie populaire ?
Alors, moi, j'ai l'impression qu'être footballeur, c'est un état. Et que je serai footballeur à vie. Encore aujourd'hui, l'autre fois, on m'a demandé mon métier, j'ai dit footballeur. Je pourrais dire, voilà, je dois tout au football. Ouais. C'est un peu vrai. Je me suis construit grâce au football, j'ai voyagé grâce au football. Aujourd'hui, je continue à parler de football. J'y joue plus parce que j'ai mal partout. j'aime trop le football et c'est ce qui me définit le mieux. Et puis, faut pas oublier que j'ai joué au football, ouais.
Ouais.
Donc même aujourd'hui. Mais je suis bien content 10 ans plus tard, après l'arrêt de ma carrière, de pouvoir être tranquille avec ça. J'ai plus très envie. J'aurais voulu que ça continue à vie. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Et ça a été dur d'arrêter. Aujourd'hui, je vais bien.
Ouais. Donc même aujourd'hui, tu te dis encore footballeur. Même 10 ans après, ça fait déjà 10 ans. C'est.
Ouais.
J'ai l'impression que c'était quasiment hier.
Ouais, en fait, c'est. Ça fait déjà 10 ans, c'est passé vite.
Peut-être parce que t'es un peu présent, pas partout, mais t'as réussi à être sur les plateaux télé pour parler de foot, comme tu l'as dit. Tu travailles pour Yahoo, maintenant pour l'équipe. T'es très proche aussi de SoFoot. T'as toujours eu cette présence malgré tout. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que c'était hier, en fait.
Ouais. Ouais. Ouais, choisi. Il y a Tatane aussi.
Tatane, ouais, on va en parler.
Ouais, je crois au football. Mmh. J'ai aimé y jouer, j'aime en parler. Et je crois à ce que propose le football. Voilà, faire la passe, être avec les autres, le lien social que ça crée. Sur le terrain, en dehors du terrain, dans la tribune, même devant sa télé, il se passe des choses, c'est assez formidable, quoi.
Donc pour toi, le football, c'est vraiment une école de vie, vraiment ?
Bah ouais. Je pense que notre société qui nous arrête un moment, nous met à l'école et nous assoit, manque de mouvement. Je pense qu'on a besoin de... Moi, j'ai besoin. Je me suis arrêté après le foot. J'ai eu un rejet du sport, du football, mais aussi parce que j'étais triste. Hein. Et puis maintenant, je me remets en mouvement et j'ai besoin de courir, de marcher. Voilà, j'ai besoin de ça dans ma vie.
Donc, tu es vachement d'accord avec la phrase d'Albert Camus. De mémoire, hein, je ne suis pas sûr de l'exactitude des mots. C'est ce que j'ai appris des hommes, c'est sur un terrain de football. Enfin, ce que je sais des hommes, c'est sur un terrain de football que je l'ai appris. C'est, je crois que cette phrase-là.
En tout cas, j'ai passé beaucoup de temps sur les terrains vagues, sur le bout de terre qu'il y avait en bas de chez moi. Et il s'est passé beaucoup de choses. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Je continue à apprendre des choses, mais pas que sur un terrain de foot. Alors, on ne contredit pas Camus, je pense, hein, c'est pas possible, mais, mais oui, il a raison. Je pense qu'on devrait utiliser beaucoup plus le football. le sport en général, et le foot encore plus, c'est tellement super, quoi. Les politiques devraient... Partout où on met du football, il se passe quelque chose de pas mal. Hein.
Mais tu voudrais l'utiliser comment?
Bah, par exemple, moi, nous, on parlera de Tatane plus tard, mais...
Mais on peut en parler maintenant.
Voilà, hein, bah, Tatane, on décide de jouer au football, vraiment. Mm-hmm. Alors, on est aussi un think tank, on est aussi... on est une école de foot, on crée des événements autour du foot. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on joue au football quelque part, les gens se parlent, se croisent, se rencontrent, se mélangent. Ça désinhibe. Le lien social, le vivre ensemble, c'est des trucs un peu galvaudés, mais ça existe, ça marche vraiment. Ça redonne confiance à des gamins, ça redonne le plaisir, la joie. Y a des gamins, par exemple, qui sont en échec scolaire. De rejouer au football, tu vois que leurs notes augmentent. Par exemple, les gamines qui jouent au football avec des garçons, il se passe un truc de séduction de nouveau. Les garçons sont moins violents et moins vulgaires, par exemple, avec des filles au milieu. C'est une évidence. Il y a plein de choses comme ça qui se passent grâce au football.
On a eu il y a 2 semaines Pierre Rondeau ici dans Banquette et qui nous expliquait qu'il a été prof de SES dans un lycée pas très loin de là où on enregistre. Et il racontait que justement, grâce au football, il a réussi à intéresser ses gamins à cette option qui était complètement facultative, à les intéresser à l'économie en parlant d'économie à travers le football. Mmh. Et toi, c'est un peu ce que tu vois dans ce que tu fais avec Tatane, c'est-à-dire que dans les interactions sociales entre filles et garçons, entre des gens de différentes classes sociales, il y a vraiment une alchimie qui se crée grâce au sport.
Oui, oui. Je voudrais pas limiter ce qu'on fait. Nous, on joue au football partout.
Ouais.
Il se trouve qu'on joue aussi au football dans des endroits où c'est un peu plus difficile, dans des quartiers difficiles, avec des plus jeunes qui sont parfois plus difficiles. Mais on fait aussi des choses un peu partout. Et là, oui, dans ces endroits-là, ouais, il se passe quelque chose. Il y a une nana qui est prof, qui s'appelle Lise, qui est prof de français. C'est à Meaux. Un jour, elle est arrivée. Elle avait du mal avec des élèves, une section foot dans son lycée. Elle nous a dit, je leur ai fait travailler le manifeste Tatane. Et parce qu'il y a eu du football, elle a pu. Il s'est passé quelque chose. Mmh. Donc voilà, c'est un exemple. Hein.
Ok. Et du coup, on parle de Tatane. Est-ce que tu peux expliquer un peu, résumer brièvement pour les gens qui connaîtraient pas ce qu'est Tatane et comment tu l'as créé?
Alors. Tatane est une association qui milite pour un football durable et joyeux. On est 3 cofondateurs, Brieux Ferraud, qui est à SoFoot et à SoPress, et Pierre Walfis, qui venait de la musique, qui est moins avec nous maintenant. Au départ, c'est un manifeste. La première phrase, c'est « On a perdu, on a gagné, on s'est bien amusé ». C'est des gamins des favelas d'Uruguay qui disent ça. Je trouve que ça nous va bien. Après, il y a beaucoup de phrases. Un exemple dans le manifeste, parce que on ne peut pas planter de la banane et espérer de l'ananas, c'est espérer de la banane. C'est check l'eau. Il y a la peur de jouer empêche de la peur de perdre empêche de jouer. Il y a plein. On juge une société à la manière dont on traite les plus faibles. Par exemple, il y a plein de choses comme ça, voilà. J'ai plus les phrases en tête, putain, il est super le manifeste. Donc ça, on l'a coécrit, on l'a validé. Franck Hannaise, le patron de SoFoot, a été le premier à le lire. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, je signe, je suis avec vous. Après, on l'a fait signer par d'autres personnes, un peu connues. Et on l'a lancé sur Internet. Les gens ont signé, nous ont dit, bah, nous, on fait déjà ça. Ils cherchaient quelqu'un pour être relayé. Et on a été victime de notre succès. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de tout ça. On est passé d'abord en collectif, puis après en association. Maintenant, on est une asso. Donc, on fait pas mal de choses subventionnées par l'État ou la mairie. Notre chaise sociale maintenant est à la Villette. On a une maison folie. Là, je ne sais pas si vous voyez les maisons rouges qui sont à la Villette, sur le parc de la Villette. Donc, on est là-bas et on fait des choses là-bas. On est au gymnase de Berlaymont dans le 11e. Pour les grands événements, on a fait un truc au 104. Ça fait plusieurs années. Par exemple, on fait des commentaires de match, on coupe le son, les gens commentent. On fait des débats en ce moment. On vient de sortir un deuxième livre. Voilà, on joue au football, vraiment. Nous, ce qui est important, c'est de mettre du foot quelque part et on voit ce qui se passe. Il se trouve qu'il se passe souvent la même chose. C'est souvent les gens jouent au foot, quoi. C'est génial, quoi. Et on avait fait un truc aussi qui était super à la philharmonie. un match concert où on avait coupé le son et une harmonie avait joué avec un groupe. Et on avait 2 minutes d'avance sur le match et on leur disait il se passe ça et eux ils changeaient.
C'était quoi le match
On a eu de la chance, c'était pendant l'Euro et c'était Croatie-Espagne.
Ah oui, oui, oui.
Avec le pénalty à la fin, je crois que c'est 2-1 pour l'Espagne ou un truc comme ça.
J'ai plus le score en tête, ouais, mais...
voilà, on avait un super match aussi. Voilà ce qu'on a fait. On a fait un tournoi de Brel, donc il fallait élire la pire équipe de Paris. récemment, ça c'est fabuleux. On a fait des tournois de baby-foot dans les maisons de retraite qu'on appelle les tournois de papy-foot. Donc, c'est des raisons seniors, donc une personne âgée avec un gamin qui joue au baby-foot. Donc, de nouveau, il se passe quelque chose. Là, on fait quelques débats. On a fait Anne-Laure Bonnet dans un bar à Belleville. On a fait la Fédération française de la Loose. Et le prochain, on espère, ce sera normalement Clément Turpin ou Sinégovou peut-être, que je dois appeler. Premier livre qu'on avait fait, on avait changé les règles du football. On a fait La Règle, une illustration d'un dessinateur connu. Il y avait Jules Berberian, Bouzard et Pénélope Bageux qui avaient illustré. Mm-hmm. Et là, on a fait un livre sur des idées tatanes du football. On a fait intervenir... donc, ils ont écrit des textes illustrés par Nejib, un dessinateur. Il y a Vincent Duluc qui est un signataire et qui a aussi participé à ce livre. Il y a Domenech, il y a Yaneta, il y a qui encore Clément Turpin, il y a des gamins, il y a les dégommeuses.
Qu'on a reçu dans Manquette voilà. aussi. Ouais.
Donc voilà, un truc, on a essayé d'être le plus large possible pour mm-hmm. donner la parole à plein de gens.
Et du coup, Tatane, ça a commencé quand?
C'était en 2011, pardon, j'ai oublié
de le
préciser. C'était en 2011, donc on a eu 7-8 ans maintenant.
Mmh, donc l'idée vient de toi ou...
Ouais, tous les trois.
Vraiment tous les trois ensemble, l'idée vous est venue comme ça ou...
Parce que, alors, pardon, ouais, excuse-moi. Il y a eu, après Knysna, on s'est dit, le foot, c'est pas Knysna, c'est pas la corruption, c'est pas les simulations, c'est pas la sextape de Benzema, c'est pas tout ça. Le foot, c'est vraiment jouer au football. C'est extraordinaire. Les travers du foot qu'on présente sont pas le football, quoi. Je veux dire, Zlatan Ibrahimovic, même quand il touche 20 millions d'euros, il joue vraiment au football au moment où il joue au football. Et c'est ça qu'on veut mettre en valeur. On parle souvent des valeurs du sport, les valeurs du foot. Mmh. Ça existe, quoi. C'est pas des conneries, quoi. Je veux dire, le respect de l'arbitre, l'altruisme, le goût de l'effort, tout ça, ça existe vraiment, quoi. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur et c'est ça qu'il faut utiliser. La FIFA et tout ça, ils brassent des millions, mais le foot de la FIFA peut arrêter. Le football des quartiers, des villages, il va continuer. Quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, les gens aiment jouer au football, ils aiment ce sport. Et partout au monde, moi, j'arrive et je parle de Zidane ou je parle de Maradona et j'ai des copains, tout de suite. Je vais à un endroit où on joue au football, je leur dis, je peux jouer. C'est ce que j'ai fait quand j'étais petit. Hein. J'allais au Bois de Montjon avec mon oncle. On arrivait et on demandait, ouais, on peut pas jouer avec vous. Et puis on jouait, puis on avait des copains pendant une heure, quoi. Et bah, c'est ça. Hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui quand je vais dans les parcs. Il y a pas si longtemps, j'allais encore dans les parcs avec mes filles. Bah, je voyais les gamins, ils jouaient au foot, ils se connaissaient pas forcément. Hein. Ils se retrouvent, ils arrivent, puis ils jouent au foot, quoi. C'est un peu ça ce que propose ce sport.
Et du coup, ça t'a énervé ou ça t'énervait de voir tous les clichés, toutes les critiques qu'il y avait autour du foot? Alors que pour toi, ça reste quelque chose, dans la manière dont tu le racontes, quelque chose qui est très très simple, ça t'énervait vraiment de...
Ça m'énervait pas. Hein.
Ouais.
Non, faut pas que je m'énerve pour ça, parce que sinon je vais être malheureux. Il y a beaucoup de choses bien plus graves qui pourraient m'énerver. Mais je voulais qu'on parle de tout ça. Quoi. Et c'est tellement d'actualité, je veux dire, ce qui s'est passé avec... avec
Koulibaly.
Les cris de singe avec Koulibaly. Mm. Je veux dire, la FIFA, c'est pas sa priorité de lutter contre le racisme, sa priorité. Si c'était ça, ça se saurait, quoi. Je veux dire, à part se faire du blé, la FIFA, je veux dire, ils font pas autre chose. Ils utilisent le foot comme un produit. Mais quand même, j'imagine que dans leur mission, ils doivent redistribuer et tout ça. Bah ouais, le foot, normalement, c'est un endroit où les gens se croisent, se parlent. Je veux dire... Si c'était ça le but central, ça marcherait. J'ai l'impression que beaucoup de gens s'éloignent du but primordial de ce sport. Voilà.
Bon, on va revenir justement à ta découverte du foot, son essence même. Du coup, je suppose que c'est quand tu étais gamin, ouais. Tu l'as raconté un petit peu. T'as grandi dans la banlieue du Havre, c'est ça, si je me trompe?
Le Havre, non.
Le Havre même, ouais.
Un quartier qui s'appelle Coquerilloville.
D'accord, et c'est là-bas que tu découvres le foot, ouais. T'avais quel âge?
6, 7. J'ai commencé en club à 8 ans, ouais. Assez tard, aujourd'hui on commence très tôt. Je jouais en bas de mon immeuble avec...
Ça se passait comment? C'était après l'école? Tu es arrivé, je voyais, est-ce que je peux jouer?
Tout le temps.
Ou t'avais tes potes déjà, ou vous faisiez une équipe?
Tout le temps, ouais. Je raconte souvent ça, parce que j'ai ce souvenir-là. Déjà, le terrain était asymétrique. Il y avait un endroit où le but, c'était tout la largeur du terrain. Il y avait un endroit où le but, il était au milieu, c'était super large. Avec les racines, avec les arbres. Et puis, le match, il ne s'arrête jamais. Tu arrives, ouais. Tu prends le match en cours, et puis le score, il monte. Puis à un moment, tu te dis, bon, ça va, on part à zéro, on rechange les équipes. Il y a un gars qui rentre chez lui parce qu'il a ses devoirs à faire. Donc, tu joues à un de moins. Enfin, tu vois, il se passe plein de choses comme ça. Puis à un moment, il y a la nuit qui tombe, quoi. Donc tu peux plus jouer, puis tu rentres chez toi, tu te fais disputer parce que tu rentres, t'es sale. On jouait sur un terrain en boue, quoi, ouais. en pelouse. Et puis, après tu vas à l'école, à la récréation, tu joues au foot. Le soir, tu rentres, tu balances ton cartable et tu rejoues au foot. C'était notre vie. C'était génial aussi parce qu'il y avait tous les âges qui jouaient. Vraiment tous les âges. Ça, c'était marrant aussi.
Donc, ça allait de quel âge? Donc, 6 ans à...
J'ai mes oncles, j'ai des souvenirs de jouer avec mes oncles. Quoi. J'avais 7-8 ans. Mon frère et mon oncle, on allait à la forêt de Monjon là, le dimanche matin, on allait jouer au foot et on se mélangeait aux gens. Voilà.
Une petite question du coup de jeu. Est-ce que vous jouiez des matchs classiques? Donc, je ne sais pas combien, peut-être 5 contre 5, 8 contre 8 ouais. Ou vous faisiez aussi des qualifs? Moi, je sais qu'à mon époque,
les qualifications, on faisait ça. Tout le monde contre tout le monde, voilà, avec un gardien.
Battle Royale, en gros, voilà. C'est ça.
Et celui qui marque, il est qualifié pour le match d'après. Voilà. Ça, on faisait tout le temps, ça.
Ouais. Et qualif à deux, ça existait aussi ou pas du tout?
Ça me dit moins.
Ouais. Ah ouais, non, bon, c'est peut-être...
Goal volant, nous, on était embêtés parce qu'en plus, on n'est pas là juste sur la pelouse, le gardien, il nous chassait. Après, on faisait un truc aussi, on jouait dans les cages d'escalier quand il pleuvait.
Ah ouais?
Ouais, avec des boules en aluminium. Ça c'était hyper bien. Donc là c'était des 1 contre 1, 2 contre 2 max, quoi.
Ouais.
Mais plutôt 1 contre 1 avec la minuterie qui était chiante, tu vois, ça s'éteignait, ça sera, tu vois. Et c'était bien techniquement, tu vois. Il fallait. Puis tu jouais, t'avais les boîtes aux lettres, t'avais les escaliers, t'avais les gens qui rentraient avec leurs courses. Ça c'était marrant, ça. Ça c'est quand il pleuvait.
Donc, ouais, mais la pluie ça arrête pas souvent, même.
Ouais, mais quand t'as raison. Mais il y avait les merdes de chiens, ça c'était chiant.
Ouais, on trouve toujours un moyen pour jouer un mur, ça suffisait, on faisait des murs aussi.
Ouais.
Ah ouais, ça c'était incroyable. Et du coup, après 2 ans, donc tu te dis, je vais m'inscrire au foot parce que c'est vraiment ce que tu kiffes, quoi.
Ouais, après je suis allé au Coquerilloville, il y avait un club, je suis allé plusieurs fois au départ, ils m'ont refusé parce qu'ils disaient que j'étais petit. Puis après, un jour, il y avait un dirigeant qui habitait, M. Bourdoulous, qui me voyait jouer. Et il était dirigeant du club, donc il m'a emmené. Donc, j'ai commencé en poussin 4, j'ai fait un match et j'ai fait directement, je suis allé en poussin
1. Ouais.
Là, j'ai une photo où j'avais pas le même maillot que tout le monde. Mes parents, ils m'avaient acheté un maillot, puis c'était pas la bonne couleur, il était bleu. Et donc, c'était une parent d'élève. Mes parents, je pense qu'ils avaient la thune pour m'acheter le vrai maillot. On n'avait pas beaucoup de thune, ils avaient dû se tromper, donc je faisais un peu pitié. Il y avait la mère je me rappelle, la mère de Nicolas Toc qui m'avait acheté le bon maillot après et tout. C'est vraiment un poussin à Coquerilloville. Ouais.
Et donc tu continues. Et je parlais avec un ami qui a été entraîneur de basket pour le coup pendant longtemps. Il entraînait des minimes et il disait, à chaque début de saison, il disait là, vous kiffez, mais le vrai test, ça va être l'année prochaine en cadet. Donc vers 16-17 ans, où en gros, vous commencez à sortir, il y a les meufs, tout ça, des trucs comme ça. Mmh. Et c'est là qu'on voit ceux qui vont continuer et ceux qui arrêtent le foot. Mmh. Et toi, arrivé à cet âge-là, est-ce que tu étais vraiment dans l'optique de devenir professionnel ou tu avais un peu la tentation d'avoir une vie un peu comme tout le monde, de sortir le week-end, etc.?
J'ai eu la tentation. C'est compliqué tout ça parce que... Je pense que c'est la sélection naturelle. Ce qui passe, c'est les plus forts. Et on est tous face au même dilemme de l'adolescence, vouloir sortir, vouloir de la liberté. Donc moi, pendant que mes copains faisaient les cons, moi j'allais à l'entraînement. Ouais. Moi, je n'y suis pas. J'ai beaucoup de chance. Moi, je viens d'une époque, j'en ai 70, et je suis formé dans les années 80, d'abord au Coquerilloville, puis après je pars au HAC. Et moi, j'ai un centre de formation dans ma ville, dans mon club, qui est un club pro, qui joue soit en deuxième division, soit en première division. Et je rentre tous les soirs chez moi. Quoi. Je vais au lycée, je vais au collège, je vais au lycée, puis après à la fac. Tu vois, aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui, ils partent loin, dans des centres de formation. Tu vois, moi, je rentrais tous les soirs chez mes parents. Mmh. Alors, c'était difficile parce que j'allais au lycée et puis après, j'avais... Mais bon, c'était cool aussi. Et je me souviens, ouais, mes copains, le vendredi soir, ils me disaient, il y a une teuf là. Et je leur dis, bah non, moi, j'aurai une teuf aussi la semaine prochaine. Voilà. Et puis, parfois, je suis sorti aussi, j'ai fait le con. Tu vois, et je suis passé, quoi.
Pas... Ouais.
Mais il y a des raisons, hein, évidemment. Moi, j'ai été blessé à 16 ans et 17 ans. Pubalgie, hernie discale, j'ai été opéré deux fois. Et les deux fois, je suis revenu, quoi. Il y a d'autres, j'ai des potes, ils ont été opérés, ils ne sont pas revenus.
La fameuse opération du genou, la blessure au genou, qu'on entend souvent. Ouais.
Mais ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, la blessure du genou, tu t'en remets. Les tacles, je les ai pris, moi aussi. Voilà, ça fait partie du truc, c'est comme ça, quoi.
Et du coup, la récompense ultime, c'est de voir que tu as été professionnel au Havre. Tu as commencé au Havre. Comment tu t'es senti quand on a fait appel à toi pour ton premier match professionnel? Est-ce que tu t'en rappelles encore?
Ouais, contre Saint-Etienne, donc à domicile. Laurent Blanc, qui fait pénalty, on égalise. Moi, je rentre à 30 minutes de la fin. J'étais hyper surpris. Alors, le match d'avant, j'étais sur le banc à l'OM, peut-être, la grande équipe championne d'Europe. Et l'entraîneur ne me plante plus trop. Puis là, il me prend. Et moi, je ne m'y attendais pas. J'étais derrière. Puis il m'appelle. Il me fait rentrer. Et là, je ne joue plus du tout. Tu vois, je suis content. Alors, en plus, au Havre. Mmh. Et moi, dans ma tête, j'ai joué professionnel à vie. Quoi, tu vois. Alors que ce n'est pas ça le but. C'est quand même de jouer un peu plus. Une deuxième fois au moins. et là, je ne joue plus du tout. Mais bon, de ma génération, j'ai fait un peu après les autres, avec mes opérations. Je suis jamais allé en équipe de France. J'étais vraiment l'espoir du club. Et tout le monde m'est passé devant un moment, parce que j'étais blessé. Et j'ai pas lâché l'affaire, quoi. J'y ai cru.
Tu voulais prouver vraiment que...
Bah, c'est surtout que je voulais être footballeur, quoi. Ouais. Mais tu vois, il y a un moment où après ma deuxième opération, du dos, j'ai 17 ans. En plus, je prends du poids, je m'étais beaucoup blessé. Et le club me prolonge, mais on ne croit plus trop en moi, tu vois. Et moi, je redémarre avec les juniors le soir après les, tu vois, avec les mecs qui, c'est la cinquième division, tu vois. Puis tout doucement, je reviens jusqu'au moment où je joue en troisième division, donc en réserve. C'est allé assez vite, mais là, je me suis dit putain, ça va le faire, quoi. Je vais le faire, tu vois. Je me souviens c'était contre Calais. À Deschazeaux, au Havre, en troisième division, un dimanche à 15h. Et à la fin du match, j'avais les larmes aux yeux en me disant c'est bon, ça va passer. Quoi. Et après, ça a pris un peu de temps de nouveau. Mais après, cette saison-là, c'était pas génial. C'était Guy David. Bah, pas fait jouer du tout. Mais ils m'ont quand même filé un contrat. Je me rappelle, je voulais partir en prêt à Amiens. Ils ont refusé. L'année d'après, j'ai de nouveau démarré sur le banc. Enfin, et puis, au bout de 7 matchs, il y a Caviglia qui était suspendu. Et je joue contre Monaco. Et il y avait Michel Rio qui était un très, très grand joueur, un super joueur, qui était venu au Havre. C'est un des plus gros salaires, qui joue numéro 10. Il jouait à côté de moi devant la défense. Et moi, je faisais plutôt un bon match. Et lui, pendant le match, il se faisait siffler par le public. Ça faisait un moment qu'il se faisait, il était pris en grippe par le public. Et il a demandé le changement. Et pendant le changement, il est parti au vestiaire. Donc, on s'est retrouvé à jouer à 10 contre 11 pendant quelques minutes. Et le lendemain, il a été licencié.
Ah ouais?
Ouais. Comme moi, j'avais bien joué, ils ont trouvé un arrangement. Ils se sont dit, Vikash, il va prendre le relais. Et puis, j'ai joué. Je ne suis plus jamais sorti de l'équipe.
C'était ça le tournant de ta carrière?
Ouais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est souvent comme ça. Hein, je veux dire, beaucoup de joueurs, c'est parce que lui s'est blessé. Mais j'allais passer, quoi. Moi, j'y croyais, quoi.
Mais au final, tu restes combien de temps au Havre en tant que pro, vraiment?
J'ai joué 5 saisons.
Ouais.
Donc, une année stagiaire pro et 4 années pro. Mm-hmm. Et après, je suis parti à Lyon.
Et quel rapport tu gardes aujourd'hui avec le Havre parmi tous les clubs que tu as fait? Est-ce que c'est le club qui a la plus grande place dans ton cœur, vraiment?
C'est tout est différent parce que c'est des époques différentes et c'est des situations différentes, des clubs différents. Mais c'est ma ville, quoi. Je suis né au Havre, c'est ma ville de toujours. Mes frères et sœurs y habitent, ma mère y habite, j'y vais tout le temps. Voilà, je suis supporter d'une équipe, c'est le Havre, c'est le HAC.
Ouais.
Voilà. Je suis allé derrière le but, quoi, moi. Je descendais de Cocriauville. Vous ne pouvez pas connaître ça, vous. Non, mais faut imaginer, en deuxième division, j'écoutais les matchs à la radio, quoi. Et donc, tu avais le multiplex, deuxième division, et parfois, ils disaient but à Sochaux. Et tu t'imagines qu'il y a but pour Sochaux, quoi. Et parfois, il y a but pour Le Havre. Et je courais dans la maison. Et j'allais au stade. Après, quand Le Havre est monté en première division, donc la montée, on avait joué enlevé de rideau. On était sur des bancs parce qu'il n'y avait plus de place dans le petit stade de Deschazeaux. Et il y a Casanova, l'entraîneur de Toulouse, qui était dans les buts, qui à un moment fait un arrêt extraordinaire. Et la perte d'attaque, c'était Pain-Jacquet. C'est vrai, Pain-Jacquet. Et Pascal Pain marque, il rentre en cours de jeu, il marque, on monte en première division face à Mulhouse de Domenech. Tu vois, et là, on va en première division avec Abdelkrim Merikrimo, qui était l'avant-centre international marocain. T'imagines, il y a peu de matchs. Le ballon, quand il rentre au fond des filets, quand tu sais qu'il rentre peu de fois, hein, c'est pas le basket, le foot. Hein,
ouais, ouais.
Tu vois, ça rentre déjà peu de fois. Et nous, ça rentre moins de fois que les autres. Tu vois, on est le Havre, quoi. Putain, mais alors t'imagines quand parfois, t'as but et ils refusent le but. Putain, mais c'est... Tu te rends compte de la sensation que c'est, t'es derrière le but et... Je me souviendrai toujours de ce match, on perdait 3-0 contre Toulon. Olmeta, Casoni, tous ces gars-là. Et on gagne 4-3, 4 buts d'Abdelkrim Merikrimo en une demi-heure, quoi. Un truc de fou. Tu sais, c'est des moments... c'est incroyable, quoi.
Ouais, t'en parles avec passion et ça t'arrive encore de retourner au stade, voir des matchs?
Ouais, ça m'est arrivé assez peu de fois. Je suis allé assez peu de fois dans des stades de foot depuis que j'ai arrêté. Moi, je vois aucun intérêt d'aller... Moi, j'y vais, j'ai envie d'être en loge, quoi. Par contre, aller au HAC, voilà, j'irais plus peut-être derrière les buts, mais c'était ça, quoi, pour moi, aller au stade, c'est aller derrière les buts. C'est pour ça que je défends beaucoup les supporters, je défends les ultras, je suis pour les fumigènes, je suis pour les tifos. De toute façon, je suis pour la liberté de façon générale.
Est-ce que tu as connu cette ambiance-là, ouais?
Mais c'est ça le foot, quoi. Tu vois, je suis pour. Les supporters sont tristes, quoi, quand ils perdent. J'étais triste, j'ai pleuré, quoi. Mais on aimait nos joueurs, nous. J'ai jamais insulté un joueur, jamais, tu vois, à l'anglaise, tu vois. Aujourd'hui, à Lyon, par exemple, quand on perdait, un jour, ils sont venus nous insulter, ils nous ont empêchés de sortir. Mais je le comprends d'une certaine manière. Parce que tu peux pas aimer ton club et accepter que ton équipe perde. Tu vois, c'est trop dur. C'est Benjamin Biolay, dans le dernier livre, on lui a fait écrire justement un texte sur les chants des supporters. Et on a trouvé l'idée, c'était de une chanson, c'est ce qu'il disait, je ne sais plus, je crois que c'est à Anfield, quand il chante Une Nouvelle Colonne, c'est un peu aussi de dire les joueurs se disent « Ah tiens, on ne peut pas leur faire ça, quoi !» Tu vois, on peut pas perdre, quoi. Faut qu'on se bouge le cul. C'est un peu ça, là, le truc. Donc, quand t'as perdu, tu te dis, tiens, ils l'ont pas fait, quoi. Les supporters, c'est normal qu'ils soient en colère, c'est normal qu'ils crient. Et en même temps, je le comprends pas. Je me dis, putain, ils doivent nous aimer tout le temps, tu vois. Mais ça peut pas exister l'un sans l'autre, quoi. Ça doit être passionnel, ça doit.
Ouais. Et du coup, pour finir avec Le Havre, il y a un truc qui me fascine avec ce club. C'est un des rares clubs en France qui continue à sortir des grands joueurs, qui deviennent des grands joueurs. Il y a eu toi, voilà. Donc c'est... Il y a eu Mandanda, on pense à Benjamin Mendy, Paul Pogba aussi, je crois qu'il vient du Havre, formé au Havre. C'est un club qui forme beaucoup de joueurs qui deviennent des grands joueurs, ouais, mais qui a du mal à s'installer de manière pérenne en ouais. Ligue 1, qui veut être souvent en Ligue 2. Comment tu l'expliques, vu que tu es passé par ce club, c'est le club de c'est ta ville, quoi. Donc comment toi tu l'expliques?
On est la 11e ville de France, je crois. on a un beau stade. On devrait, on est le club doyen, on n'est plus le club français. On devrait être en première division, on doit être en première division. Donc ça veut dire que le club s'y prend mal. Mais soit on fait du business et on équilibre les comptes, soit parce qu'en deuxième division c'est quand même difficile. Je veux dire, les recettes elles sont pas, c'est-à-dire les droits de télévision sont pas les mêmes. Et ou soit on décide de monter en première division. Et monter en première division c'est forcément peut-être perdre de l'argent à un moment. Donc il faut garder ses joueurs. Je pense que le Havre forme des joueurs, les utilise pas assez, donc en profite pas et les vend trop tôt. Donc mais c'est compliqué. Genre, moi je pense qu'ils devraient qu'ils ont vendu Rafik Guitan 18 ans à Rennes qui ne joue pas. Il a très peu joué, c'est un super joueur, je l'ai vu. Il a très peu joué. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Pogba, c'est des erreurs de diagnostic. À un moment, ils ont oublié de prolonger ce gars-là parce qu'en fait, personne n'a pris le risque de miser sur lui. Parce qu'évidemment, si tu mises sur des jeunes joueurs, il y en a pas mal qui vont peut-être pas... Tu perds de l'argent. Tu vois, ils n'ont pas misé. Il y en a d'autres. Hein. Mais c'est aussi parce que Bosman est passé par là. Ouais. Et voilà, il y a plein de choses. Moi quand je suis au Havre, je suis obligé de prolonger mon contrat. C'est une époque où on prolonge son contrat dans son club pro. Et c'était 4 ans de contrat, le premier contrat professionnel. Tu vois, moi, je me souviens, Jean-Pierre Hureau, qui était le président de mon HAC, il ne m'a pas laissé partir. Il m'a dit, tu partiras l'année prochaine, on va le préparer. Il se trouve que ça s'est bien passé. J'ai été vendu 32 millions de francs à l'époque, c'était un énorme transfert à Lyon. Mais je suis arrivé à 24 ans à Lyon. Tu vois, le Havre a profité de moi, de Hibou, de il y avait qui encore ? Il y avait Djibril Diawara, le fer de Souleymane, tu avais Frédéric Brandeau, tu avais Christophe Revault. Il a profité de ces joueurs. On a pu jouer en première division et ensuite on est parti. S'ils nous avaient tous vendus à un moment, tu vois, et c'est ce qu'ils font. C'est difficile. Alors, je ne sais pas comment il pourrait faire mieux. Hein. Moi, j'ai une petite idée, mais...
Tu peux l'exposer ici. Hein.
Ouais, c'est celle-là. C'est, ouais. C'est prendre le risque, perdre peut-être de l'argent. Et puis, moi, je crois que de façon générale, les clubs s'y prennent mal parce que partout, dans toutes les divisions, l'économie du club, enfin, la vie du club dépend des résultats. Alors qu'elle devrait être déconnectée, elle devrait être plus en rapport à la vie de la cité, la vie de... si tu réussis à ancrer et que le foot, c'est important, ça a de la valeur, peu importe si on gagne ou si on perd, vraiment, tu peux installer quelque chose. Donc, il faut aimer son club, il faut aller au stade pour supporter son club. Et le Havre va essayer de le faire avec plein de choses. Je ne sais pas si j'étais très clair.
Ouais, si c'est, mais est-ce que tu penses qu'une telle culture de supporters, c'est possible en France ? C'est-à-dire que supporter son équipe malgré les défaites, en faisant fi des résultats, est-ce que c'est vraiment possible? On voit que dans un club, dès que voilà, ça commence à aller un peu moins bien, tout le monde s'en va, les tribunes, enfin, moi je supporte l'OM, mais dès qu'il y a un peu de moins bien, il n'y a plus personne au Vélodrome, quoi. C'est comme ça, malheureusement. Ouais.
Je ne sais pas si on peut... Je suis persuadé qu'on n'est pas un grand pays de football. Hein.
Ouais.
Voilà, on a une bonne équipe nationale, de toute façon. Mais après... Voilà, on est...
Ouais, en termes de culture foot, c'est pas l'Angleterre. Culture
foot, c'est pas extra. Nos résultats sont pas bons. On a gagné quand même 2 Coupes d'Europe, une Coupe des Champions et une Coupe de... C'est très peu, quoi. On est très... Là, en ce moment, ça se dégrade. On est nulle part, quoi. Voilà, on est loin derrière. Mais il faudrait qu'on accepte ça. Pourquoi pas, hein. C'est pas si grave. Hein. Il y a d'autres choses à faire que...
Est-ce qu'on se voit pas trop beau ?
Ah oui, ça, ouais. J'en suis sûr.
Ouais.
J'en suis sûr. Ouais.
On se voit trop beau par rapport au niveau vraiment qu'on a, c'est-à-dire qu'on aimerait être titiller les trois grands qui sont l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne, c'est ça ? Alors que peut-être on est plus proche du niveau du Portugal et de la Russie. Et
on est même derrière eux, je crois.
Ouais, hein, je sais, j'ai pas le classement. Ouais.
Bah oui, oui. Et de toute façon, ça se voit. Je veux dire, les tentatives de la France à vendre. La Ligue 1 à l'extérieur, ça fonctionne pas spécialement, quoi. C'est compliqué. Hein. À part le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui réussit, mais il y a les championnats. Je veux dire, l'Asie regarde le foot anglais. Les clubs espagnols, ils vendent leurs droits en direct. Donc c'est un peu les gros clubs espagnols. on est derrière tous ces championnats. Je ne suis pas sûr qu'un jour on regarde la Ligue 1 à l'extérieur. On est très peu.
Un jour peut-être, on l'espère. Hein.
Ouais.
Et du coup, pour rester dans la Ligue 1, tu l'as dit, après Le Havre, tu vas à Lyon en 98, si je ne me trompe pas. Pourquoi Lyon ? Ce n'est pas encore le grand Lyon qui va devenir. Pourquoi Lyon, qui est un club qui monte, mais qui n'est pas encore, qui n'a pas de titre encore. Donc pourquoi tu choisis ce club ?
Julie signe au mois de décembre à Monaco. J'ai le même agent que Julie, Alain Migliaccio. Moi, je signe au mois de décembre, au même moment, pour l'année d'après. Donc, tout se goupille bien. À l'époque, moi, Monaco, Bordeaux me veut aussi. Et les conditions sont meilleures à Lyon. Et je préfère aller à Lyon, honnêtement. Je ne connaissais pas vraiment Lyon, mais ça faisait plusieurs années que Bernard Lacombe m'appelait. Mon agent, j'ai eu très vite, quand j'ai eu un agent très tard, tu vois, j'ai découvert le téléphone portable à 24 ans, moi, tu vois, donc je ne suis pas à la même époque que vous, les gars. Et donc, j'ai eu un agent à 22 ans, quoi. C'est vraiment une autre époque. Hein. Jusqu'à 21 ans, je ne savais pas ce que c'était un agent, quoi. Tu vois, aujourd'hui, ils ont des agents à 15 ans, quoi. J'ai décidé de lui faire confiance. Et donc voilà, on a construit ma carrière. Il m'a dit Lyon, c'est bien. J'avais une clause de libération au bout de 2 ans. Donc je signais pour 32 millions de francs. J'avais une clause libératoire à 40 millions de francs. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, le club était obligé de renégocier avec moi ou je partais pour 40 millions de francs. Donc ça, c'était un truc très très important dans mon contrat. Ce qui s'est passé.
C'est toi qui as voulu cette clause ?
Ouais, ouais. Okay. Donc Bordeaux ne voulait pas la mettre et Lyon a accepté de la mettre pour m'avoir. Et donc, Alain, mon agent, il m'a dit, mais on va là-bas, quoi, évidemment. Et il y croyait aussi. Lui, il habitait à Lyon, il était lyonnais, donc il connaissait très, très bien Aulas, très, très bien Marino Faccioli, Olivier Blanc, les trois historiques. Très bien Bernard Lacombe aussi, évidemment, qui était l'entraîneur. Jacques Santini était directeur sportif, donc il connaissait tout le monde. Julie partait, j'arrivais. Et 2 ans plus tard, ils ont été obligés de négocier avec moi.
Et du coup, quand tu arrives à Lyon, est-ce que tu sens que tu sens le projet qui monte, tu sens les... Sans l'équipe qui est en train de qui va devenir celle qu'elle a été dans les années 2000, tu le sens ça quand tu arrives là-bas?
Bah, de toute façon, je sens que je suis plus au Havre.
Tu sens la différence,
bah,
déjà.
Ouais, 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 le club, la ville, quoi. Je suis arrivé la première fois, c'était beau. C'était la nuit. Lyon, c'est une ville magnifique. Hein. Moi, je savais pas où. Franchement, tu m'aurais dit Lyon, où c'est sur la carte de France? C'est fou, ça. Aussi, ce rapport à changer de ville, changer de club. Tu vois, j'arrive dans l'un, je connaissais pas les joueurs. Enfin, je connaissais Caviglia, qui avait joué au Havre aussi déjà. C'est forcément un changement. J'ai de la chance aussi, j'arrive, il gagne la Coupe de France. Non, pas du tout. Il termine 6e du championnat, mais il y a, je sais plus quel club gagne la Coupe de France qui fait que Lyon fait l'Europe. Donc, j'arrive dans une équipe aussi qui fait l'Europe. Donc, le but, c'est de faire la Ligue des Champions. Et on se qualifie pour le tour préliminaire, on termine 3e.
Ouais.
Très vite, Marco Grassi avait signé. Devant, c'était Marco Grassi qui avait Glia. Il y avait une bonne équipe, quoi. Il y avait une très bonne équipe. Coupé dans les buts, Carteron. Au milieu de terrain, c'était Violo. Dans l'axe, Laville, avec qui j'avais joué en espoir. À gauche, Serge Blanc. Bréchet, qui était un petit jeune. Il y avait Malbranck, qui était jeune aussi. Devant Canouté, un espoir, Job. Ah, il y avait des bons joueurs. Hein.
Ouais, donc, toi, comment tu te sens dans cet effectif, hein, dans le groupe, t'es bien t'es,
Ouais, ouais, ouais. C'est, ouais. C'était. Je suis. Premier match à domicile. On fait 0-0 à Strasbourg. Et le premier match, on gagne 6-1 contre Toulouse. Je fais un match de. Tout le monde fait un match de ouf ce jour-là. Moi, je marque un but. Le dernier, super but. Je fais petit pont, grand pont, enroulé sur Teddy Richert. C'était carnaval, c'était parti, quoi. J'avais le numéro 10 et je jouais meneur de jeu. Très vite, Lacombe était venu me voir. Il m'avait dit, ouais, putain, maintenant, il faut viser l'équipe de France. Tu vois, j'y croyais, tout ça. C'était ce qui va se passer. Hein. Ouais, le club... Olas est là, quoi. Olas, tu sens que c'est... Il a de l'ambition, le type.
Ouais, donc toi, tu l'as côtoyé. Il est comment, là,
C'était mon patron, quoi. Ouais. C'était un patron, un vrai patron, quoi.
T'avais un rapport vraiment de supérieur hiérarchique, de boss, quoi, avec lui, quoi.
Ouais, il est malin. Hein. Il sait gérer les situations, les moments. Il y a un moment, il est plus proche. Puis à un moment, il faut négocier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est le meilleur président de tous les temps.
Ouais, all time, carrément.
Bah, je veux dire, ce qu'il a fait, c'est incroyable, quoi. Il est toujours là, hein.
Oui, c'est vrai.
C'est pas éphémère. Il n'a pas plombé son club. Il n'a pas piqué dans la caisse. Il a pas. Voilà, c'est clair ce qu'il fait. Ça marche. Voilà, c'est impressionnant. C'est son club, hein. C'est pas le club des Qataris ou le club des riches russes, je sais pas où. Non,
Ou
non.
des Américains
Là, c'est
ou de
son club
l'Américain,
encore. Hein.
ouais.
Donc, chapeau. Ouais.
Et du coup, tu fais 3 saisons.
Je fais 2 saisons, une année de prêt
C'est
à
ça.
Bordeaux et 2 saisons de nouveau.
C'est ça. Donc, tu fais 2 saisons à Lyon et après, tu pars en prêt.
Non, non, non. Je fais 3 saisons,
Ouais, c'est ça.
prêt,
Donc,
2 saisons.
3 saisons à Lyon,
Ouais.
pleine. Après, tu pars à Bordeaux. Pourquoi tu pars d'ailleurs?
Bah, tu sais, hein. Arrête.
Non, non, non.
Ouais, j'avais des problèmes avec tout le monde.
Vraiment tout le monde.
Tu sais, c'est très.
Ou juste le coach.
Non, mais c'est un truc important parce que c'est 10 ans plus tard que je prends. J'ai écrit ma bio, hein, ça s'appelle Comme ses pieds. Vous alliez en parler, j'imagine. Enfin, si les gens veulent la lire, ils peuvent l'acheter. Non, mais elle est
Petit
bien, elle est
instant
bien. Et je raconte ce truc-là parce que j'ai réfléchi sur ma carrière, sur ce qui m'est arrivé. Moi, je viens du Havre, où je viens d'un quartier. Je suis né au Havre, je suis formé au Havre, je suis allé au lycée au Havre. Et quand je joue au Havre, moi, je suis un gars du Havre, quoi. Je veux dire, les mecs, ils arrivent de n'importe où, on tape, quoi. On est les gamins du Havre, tous ensemble à jouer, on s'en fout des autres. Et moi, j'arrive à Lyon et j'ai le salaire des mecs qui sont cadors. Moi, j'ai 24 ans et je me sens plus proche des mecs qui ont 21, 22 ans. Et moi, je me suis trompé de place dans le vestiaire. Au lieu d'aller vers les gars qui avaient 29, 30 ans, qui m'ont tendu la main, hein, qui m'ont dit viens, qui m'ont invité, les Cavé, Carteron, Laville, Violo, tous ces gars-là, ils m'ont invité à la table des patrons. Et moi, je suis plus proche des mecs de quartier, des petits jeunes. Et là, je me suis trompé. Voilà, je me suis coupé de ces gars-là. Ils n'ont pas compris ce que je comprends aujourd'hui. Et à un moment, bah, heureusement, le jeu m'a toujours sauvé jusqu'au moment où ça. Quand j'étais pas bon, bah, on me le faisait payer. J'ai souffert et après, il a fallu que j'ai voulu partir. Et c'est pour ça que je suis parti. Je me suis battu avec Grégory Coupet à la mi-temps de Lyon-Arsenal en Ligue des Champions. Il m'a sauté dessus. Peu importe, il a raison, il a pas raison, c'est pas très grave. Mais voilà, après, c'était compliqué, quoi.
Octogone avant l'heure, en fait, c'est ça.
Ouais.
Ouais. Et donc, du coup, tu pars à Bordeaux, c'est la saison 2001-2002.
Ouais.
Ouais. Et
En prêt.
en prêt, donc tu gagnes une coupe en plus.
Ouais, Coupe de
Mais
la Ligue.
il s'avère que c'est aussi la saison où Lyon gagne son premier
Ouais.
trophée, enfin son premier championnat de France. Comment toi, tu l'as vécu de partir et l'année où tu pars, Lyon est champion de France.
Bah, j'étais jaloux.
Ouais.
Je voulais pas qu'il gagne, je crois. Mais après, je reviens, moi. Et après, j'ai pas le choix de revenir parce qu'en fait, personne ne me veut. Bordeaux ne me rachète pas, ce qui m'arrange bien. Donc, je reviens à Lyon avec mon contrat. Il me reste 2 années de contrat, ils me doivent de l'argent. Et Le Guen me fait comprendre qu'il compte sur moi. D'ailleurs, il le montre. Très vite, je joue avec Juninho et Carrière. Et après, je me suis dit, il faut que j'utilise ce qui s'est passé. Lyon est champion. Moi, je peux être champion aussi, quoi. C'était plus dur pour eux, le premier titre. Moi, ce sera le deuxième. Mais à l'arrivée, je serai champion quand même, quoi. Et moi, j'ai besoin de bien jouer. J'aime le foot, quoi. Il fallait. Et donc, j'ai fait abstraction de ce qui s'était passé. Ça s'est bien passé avec Coupé. Et puis après, c'était à moi de bien jouer, quoi.
Ouais, tu viens de dire que le plus dur pour eux, c'était de gagner le premier titre. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même de gagner le deuxième. Parce qu'avant ça, je crois qu'il faut remonter à l'OM, il me semble, pour voir un club gagner 2 titres d'affilée. Ce qui est très, très dur. On a du mal à s'en rendre compte maintenant que Paris le fait quasiment tout le temps. Mais c'est très, très dur de gagner 2 années de suite un titre de champion de France. Mais toi, vraiment, tu
Bah, je
voulais
voulais être
l'avoir ce
champion, ouais.
titre-là. Ouais.
Tu joues dans un des meilleurs clubs de France qui est champion en plus. et le but dans ton pays, quand même, c'est d'être champion. Mm. C'est vrai que le dernier match, c'était à Montpellier quand on est champion. L'avant-dernier match, puisqu'après, on joue à Guingamp. Et là, c'était Mamadou Diarra. On fait 2-2 là-bas, on est champion et on se tombe dans les bras. On est les deux seuls sur le terrain à pas être champion. Et c'est la une de l'équipe le lendemain, tous les deux en photo. C'est une super une que j'ai.
Tu l'as toujours, ouais.
Ouais, quelque part.
Et tu disais que tu avais joué au milieu de terrain avec Carrière et Juninho, ça de la gueule quand même, hein. Ouais. C'est pas mal. Hein.
Il a osé Le Guen avec. Et après, il a changé. Après, moi, à partir de la trêve, je suis plus passé dans l'axe. Et il a fini la deuxième saison avec 3 au milieu de terrain, avec Gila, Juni et moi. La deuxième, et après moi je suis parti à Milan, mais il était culotté, hein. C'était Carrière, Juninho, Carrière dans l'axe, Juninho et moi, et Violo derrière les, puis après Gila.
Ouais, et de toutes ces années à Lyon, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que c'est ton premier titre? Est-ce que c'est le deuxième? Est-ce que c'est tes 3 premières saisons? Enfin, qu'est-ce que tu retiens? Tu devais retenir qu'une chose?
Ah non, c'est difficile, beaucoup de choses.
Ouais.
Forcément être champion.
Voilà, on fait un top 3 là. C'est...
Champion. Ouais. Coupe de la Ligue, c'est le premier titre. Avant d'être champion, Lyon n'avait pas gagné depuis très très longtemps. Mm. Je crois que c'était 79, je crois. Un truc comme ça.
Ah, j'ai pas les dates en tête, je peux pas te dire.
Et donc, on gagne la Coupe de la Ligue face à Monaco. But de Patrick Muller sur un centre de Sony en prolongation. Donc, c'est quand même quelque chose. Puis après, c'est aussi ma vie à Lyon. Un jour, j'étais avec la mère de mes enfants, on était au Havre et je lui ai dit on rentre chez nous, tu vois. Et bah, je me suis dit je suis lyonnais, quoi. Voilà, j'ai construit. C'est pas anodin. Moi, je viens d'un petit quartier. Le foot m'a fait sortir de mon quartier, m'a fait sortir, traverser la rue, quoi. Et puis après, j'ai voyagé. Puis un jour, j'ai fini à Lyon. Puis après, à Milan. Et bah ouais, je l'ai fait, quoi. Être capable d'aller me faire des amis, me construire une vie ailleurs. Je suis assez content de ce genre de choses. Ouais.
Et c'est grâce à Lyon que tu vas en équipe de France, c'est ça?
Ouais.
Ouais, c'est 99, il me semble, ton premier match contre l'Ukraine. Donc 99, le sélectionneur, c'est Roger Lemaire.
Ouais.
Ouais, donc tu avais déjà les pré-convocations avant.
Et je sais pas trop.
Tu sais pas trop, ouais.
Là, Lemaire, je l'ai eu en... Je suis champion du monde militaire avec Roger, ouais. Lemaire, j'ai fait le bataillon. Et puis, quand j'y vais, ouais... Je me souviens, c'était après Bologne, le lendemain. On avait été éliminés. On avait perdu 3-0 là-bas. On gagne 2-0 à domicile. Mais moi, je rate un but. J'ai l'égalisation au bout du pied. Je la rate. Et le lendemain, je suis sélectionné. Donc, puis je vais en équipe de France.
C'est un objectif de carrière, ça, l'équipe de
ouais,
France?
Oui, bien
vraiment...
sûr. Après, j'y suis allé. Mais déjà, ils étaient champions du monde. Ils étaient forts. Et moi, j'y suis pas allé avec la confiance, la niaque. J'y suis allé en observateur. Enfin... c'était peut-être trop tôt, je sais pas.
Ouais, il me semble qu'il y a une anecdote que j'ai lue, ouais, je sais plus où, peut-être dans SoFoot, avec Didier Deschamps, si je me trompe pas, une histoire de petit pont, où tu mets un petit pont ou un tag, je sais plus trop, et en gros, on te fait comprendre qu'on touche pas au boss, quoi. C'est,
Ouais, alors j'espère que c'est vrai cette histoire, j'espère que je lui ai mis un petit pont, et si c'est vrai, j'espère que même j'en ai mis 2. et puis si c'était interdit, il fallait me le dire avant, je serais pas venu. Tu vois, ils me mettent sur la convocation. Hein. T'as dit de faire des petits ponts à Deschamps. C'est important de faire des petits ponts. C'est quand même un geste incroyable, quoi. On n'a plus le droit de faire des petits ponts à l'entraînement. Et je sais pas, c'est peut-être faux.
Ouais, mais c'est comment dire? Ça te gêne ces règles implicites de vie de groupe, c'est-à-dire que c'est une vie de groupe. Normalement, tu es censé faire ce qui est possible de faire à l'entraînement, d'un point de vue footballistique. Et savoir qu'il y a des interdits comme ça, enfin, il n'y a pas que toi, ça remonte même à France 98. On sait que voilà, il y avait des places qui étaient réservées. Ça, c'est des trucs qui t'énervent dans un groupe.
Bah, je peux pas penser que c'est comme ça, quoi. Tu vois, j'ai envie de croire que c'est quand même. Parce que tu joues bien, que tu vas en équipe de France. Mmh. Après, l'entraîneur, je veux dire, Roger Lemaire, il m'a vraiment sélectionné, quoi. Il m'a fait jouer. Et je suis revenu la fois d'après. J'ai rejoué et j'ai plutôt mal joué, quoi. Je pense que c'est quand même pour ça que je suis parvenu en équipe de France. parce que j'ai joué contre Andorre et ça s'est pas bien passé, quoi. Alors, non, si j'avais bien joué, il m'aurait peut-être repris. Hein.
Tu penses ?
Bah, si j'avais bien joué et il m'avait pas repris, là, je peux te dire, ouais, c'est pas cool, mais c'est pas le cas.
Donc, du coup, c'est ce début de carrière en équipe de France.
Il est raté, ouais.
Ouais, raté. Ouais, ouais.
Il est raté. Et en même temps, je suis quand même, le jour où je rentre sur le terrain contre l'Ukraine, je suis international français à vie. Hein.
Ah, ça, on peut pas te l'enlever.
Ah,
ça,
là, c'est... je me suis dit, je les ai niqués.
Et c'est à partir de quand que tu reviens en équipe de France avec Domenech, c'est ça?
Bah, quand Domenech est. Moi, je suis à Milan. Donc, moi, j'ai pas de chance parce que après, c'est Santini qui devient sélectionneur de l'équipe de France. Et moi, Santini, on ne se parlait pas, quoi. Tu vois, je suis parti à Lyon, à Bordeaux, parce que c'était lui l'entraîneur et on ne s'entendait pas du tout. Et alors que je fais deux saisons formidables, hein, j'aurais pu y aller en équipe de France. Bon, il ne m'a pas pris, c'est comme ça. Et puis, quand Domenech devient entraîneur, bah, je sais que j'y vais. Je sais que c'est... je suis son gars.
Tu savais déjà ?
Bah ouais, je suis son gars. Il m'a pris en espoir à la place de Mikou... Ce mec-là, il m'a toujours fait jouer, il m'a toujours pris, il m'a toujours fait jouer. Quoi. On est en équipe de France Espoir contre l'Allemagne à Metz. Moi, j'étais militaire et équipe de France Espoir, plus la D1, puis j'avais fait le jeu de la francophonie, j'avais fait le championnat du monde militaire. J'étais épuisé, puis donc il m'avait mis sur le banc contre l'Allemagne et il m'avait dit, voilà, tu ne joues pas, tu es épuisé. Mais il m'avait dit, tu joueras toujours dans mon équipe. Et ben, il l'a fait.
C'est fort, ça.
Ouais.
J'étais pas au courant. Donc, tu as une vraie relation particulière avec Raymond Domenech. Ouais.
Ouais. Et ben, il m'a appelé très vite quand j'étais à Milan. Il m'a dit, tu viens voilà, le prochain rassemblement. Et en fait, Alou Diarra s'était blessé et je suis venu tout de suite très vite. Quoi.
Mm-hmm. Au point de faire la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Tu t'y attendais ou c'était vraiment...
La Coupe du Monde ?
Ouais.
Bah, en fait, moi, je suis le joueur le plus utilisé sous l'ère Domenech.
Mm-hmm.
Et donc, lui, il n'a eu aucun doute, il m'a emmené. Quoi. Ouais. Il suffisait que je joue au PSG, comme ça ne se passait pas super. Mais voilà, moi, j'étais sûr de faire la Coupe du Monde. Il n'y a que les autres, les gens. J'ai joué tous les matchs. Hein. J'allais jouer hein, à la Coupe du Monde. C'est moi qui n'ai pas été bon en préparation.
Mais ça, tu vois, c'est encore ce que je disais en début d'épisode, c'est que les gens oublient un peu ta carrière de footer, de footballeur, pardon. Pour se concentrer sur la côté et on oublie vraiment que tu as joué les matchs de l'équipe de France de préparation, de qualification, tout ça. Ouais. Et on retient que ton film en fait de substitute. Ouais. Voilà, les gens retiennent que ça. Et c'est pour ça que tu disais comment toi tu le vis, est-ce que tu le vis pas mal de...
Je m'en fous, je dans ma carrière, je sais ce que j'ai fait.
Ouais.
Je peux balancer mon Wikipédia comme vous voulez. Hein. Non, mais j'ai beaucoup joué, quoi. J'étais très peu sur le banc de touche. Après, il y a eu ce film parce que pendant la Coupe du Monde, je n'ai pas joué. Mais c'est normal parce que j'ai toujours été parmi les meilleurs dans mes équipes. Et quand j'arrive à Milan, je deviens un joueur moins... je suis moins dans les meilleurs dans cette équipe-là. Quand j'arrive avec l'équipe de France, je suis moins dans les meilleurs dans cette équipe-là. C'est bizarre, tu vois. Mmh. Tu te retrouves à moins jouer. Mais parce que mais à Lyon, à Bordeaux, au Havre, j'ai toujours joué, quoi. Après, ouais, j'ai... Ouais, j'ai beaucoup joué, ouais. J'ai kiffé quoi.
Ouais, et on va parler un peu du Milan. Et il y a une interview magnifique que tu as faite. Donc, c'est toi l'intervieweur de Johan Gourcuff dans le SoFoot qui est écrit par les joueurs. Elle est vraiment, je conseille à tout le monde de la lire. Elle est vraiment magnifique. Et donc, tous les deux, vous avez
avec
joué au Milan.
Avec Maxime Marchand, on était tous les deux.
Ouais, donc Johan Gourcuff et toi avez joué au Milan. Et il y a un moment où vous racontez les séances d'entraînement et les taureaux, je crois que c'est ça.
Ouais.
Et tu racontes que, bah, en fait, vous faites des taureaux et en fait, les mecs ne vont jamais au milieu.
Non, c'est surtout... En fait, quand à Milanello, on arrive, et au fur et à mesure, les joueurs arrivent sur le terrain, tu vois, puis il y a des bancs, il y en a qui s'assoient, il y en a qui font... Et tu arrives, tu rentres dans le taureau, tu vois, au début, j'y vais. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que Maldini, il ne va jamais au milieu, quoi. Tu vois, il te fait une passe, tu lui fais une passe, il rate la balle, c'est toi qui vas au milieu. J'ai fait, ouais, c'est bon, je ne vais pas au milieu pour lui. Quoi. Donc, j'ai arrêté de jouer au taureau. Je veux dire, si jamais ça se passe, je suis obligé d'aller au milieu. Tu vois, et moi, je ne voulais pas. Donc, je suis allé faire des passes avec Cafu. Je faisais des 1-2 avec Cafu. Je me rappelle, j'avais appelé un pote, je lui dis, je fais des 1-2 avec Cafu. Marcos Cafu, double champion du monde.
C'est incroyable. Donc, quand tu arrives au Milan, tu sens vraiment la différence. Enfin, souvent, quand on entend des joueurs français qui vont jouer au Milan, Hein, c'est un autre monde. Ouais. C'est plus le même sport, quoi. C'est autre chose, quoi.
En plus, je suis allé dans un grand Milan. Je suis allé dans un très, très grand Milan. Milanello, c'est incroyable. San Siro, c'est incroyable. L'organisation du Milan, c'est incroyable. Le président du club, c'est Berlusconi. À l'époque, il est président du conseil. C'est juste taré, quoi. Le niveau des joueurs, le niveau des entraînements. Il y avait le Milan Lab aussi. Il y avait tout ça, quoi. C'était ouf, quoi.
Tu côtoies Maldini, Inzaghi, Shevchenko, Gattuso, tout ça. T'as pas la tête qui tourne un petit peu? Enfin, moi, le fan de foot que je suis aurait la tête qui tourne, c'est sûr, hein, je te le dis.
Non, j'ai pas la tête qui tourne parce que moi, c'est mon métier. Et que moi, j'ai toujours... je me suis toujours dit que j'étais le meilleur joueur du monde. Pour pouvoir rentrer dans ce vestiaire-là, si je pense autre chose que ça, je peux pas m'asseoir dans ce vestiaire. Je peux pas me mettre à côté de Kaka. J'étais entre Kaka à droite et Yondal Thomasson à ma gauche, et en face j'avais Rui Costa, Maldini, Billy Costa Curta. Tu vois, je peux pas. Je suis obligé de penser ça. Et après, je l'ai un peu trop pensé un moment parce que je comprenais pas pourquoi je jouais pas, juste parce qu'en fait j'avais pas le niveau. Il fallait que je me remette au boulot, et après j'ai joué. Voilà, c'était incroyable, c'était bien.
Et c'était qui tes potes au Milan? Tu traînais avec qui?
Bon, moi, je voyais beaucoup Yondal, Thomasson. Après, moi, où j'habitais, il y avait Pippo Pancaro qui habitait au dernier étage, et Caladze. Moi, souvent, je faisais la route avec Caladze. Parfois aussi avec Costa Curta, qui, comme il habitait Piazza della Repubblica, il venait me chercher. On faisait le trajet, il y avait une heure pour aller à Milanello, tu vois, trois quarts d'heure, une heure. Je me suis retrouvé parfois à aller sortir avec Inzaghi, une fois un repas avec Sheva, avec Shevchenko et Caladze, voilà. C'était... je crois que j'ai réussi le truc là-bas. Je veux dire que j'y suis allé faire des interviews pour SoFoot. J'ai été super bien accueilli. Bon, aujourd'hui, le Milan n'est plus mon Milan puisqu'il a été vendu et... Mais voilà, je suis resté qu'un an, hein. C'est allé vite.
Tu as parlé de Caladze, et j'ai entendu parler d'une anecdote avec Caladze. Donc tu disais qu'il venait te... Enfin, t'allais à l'entraînement, il habitait le même immeuble que toi, vous allez à l'entraînement ensemble. Une anecdote entre Caladze, toi, et il me semble Gattuso dans le vestiaire. Est-ce que tu peux nous la raconter? Parce que je pense que c'est pas tout le monde est au courant. Et moi, j'avoue qu'en l'apprenant, je la connaissais pas du tout. Donc si tu...
Personne ne la connaît, hein. Mais Kakaber Caladze, il habitait au-dessus de chez moi, puis il était en Ferrari, tu vois. Puis il me bipait, puis il me dit « descends », puis on partait. Tu sais. Puis la première fois, je commence à parler mal, tu vois. Et je vois, il ne répond pas, quoi, le gars. Une heure à faire avec un gars, il ne parle pas. C'est long, hein, en voiture. Donc je dormais, tu vois. Puis après l'entraînement, il me disait « Vikash ». Et on était à table aussi ensemble, mais jamais il parlait jamais. Et un jour à l'entraînement, Gattuso, c'était au bout de quelques mois, je commençais à revenir, à bien jouer là. Il me met un coup de pompe assez méchant, tu vois. Et on rentre dans le vestiaire et Kaka, il va le voir, il lui dit oh, « la prochaine fois que tu le touches, je te nique ». Et c'était marrant parce que ce mec-là m'avait défendu et il m'aimait bien, quoi, en fait. Il m'aimait bien. C'était marrant.
Alors même à Gattuso, il mettait des coups de pression?
Ben lui, c'était un colosse. Géorgien, c'est un monstre.
On gaspille pas avec lui, quoi. Oh, clairement. Donc, tu as dit, tu restes qu'une saison au Milan, mais c'est plutôt un bon souvenir.
Ah oui, c'est un grand souvenir. Moi, quand je vais à Paris après, et c'est moi qui ai voulu aller à Paris, je sais pas pourquoi. Je sais toujours pas pourquoi. Mais Milan voulait pas que je parte parce que Galliani m'aimait beaucoup et il voulait que je prolonge mon contrat. Donc, j'avais pas un gros salaire, moi. Parce que j'avais accepté d'aller à Milan. Je voulais aller à Milan quand j'ai eu la proposition. Donc, j'avais accepté le salaire, qui n'était pas un gros salaire. Et là, ils proposaient de me prolonger et d'augmenter beaucoup mon salaire. Et moi, je voulais aller à Paris. Je ne sais pas pourquoi. Aussi parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Hein. Et puis, j'avais l'idée aussi que finir ma carrière à Paris, c'était aussi vivre à Paris après. Aujourd'hui, je suis content. Comme ça s'est mal passé à Paris... J'ai regretté, mais aujourd'hui je suis très content d'avoir fait ce choix-là parce que peut-être qu'un an plus tard j'aurais pas pu jouer à Paris. Je vis à Paris, je suis content, quoi, voilà. Donc j'ai fait un bon choix l'un dans l'autre.
Finalement, mais bien plus tard.
plus tard, je me rends compte de ça, ouais.
Mais donc, du coup, le PSG, c'était un club qui te parlait quand tu étais plus jeune. C'était un club que tu admirais ou peut-être
Bah, tu es au Havre, tu es à 2 heures de Paris. C'est le Parc des Princes. C'est quand même des grands souvenirs, tu vois. Donc, ouais, j'avais joué à Paris. C'est pas rien, quoi. Puis après, quand je suis arrivé, tu vois, tu te retrouves au Camp des Loges. C'est des Algécos. C'est n'importe quoi. Pas d'organisation, pas de club, pas de...
En plus, tu viens du Milan. Donc
j'arrive du Milan, j'arrive de la Formule 1 et je me retrouve avec...
une Twingo, ouais, on peut dire ça.
C'était assez violent, le changement, tu vois. Et c'est de ma faute. Hein, genre, tu peux jouer au foot même dans ces conditions-là. Hein. Moi, j'ai mal joué. En tout cas, c'est à quoi qu'il arrive, à chaque fois, quand je joue bien, c'est moi. Et quand je joue mal, c'est moi. Hein. Voilà. De nouveau, ça a été compliqué. C'est dur, ce club, hein. C'est dur, hein. Puis surtout à l'époque avec une équipe.
Tu l'as dit, c'est dur, mais pourtant tu gagnes un titre. Et il me semble que tu marques un but en finale de Coupe de France contre l'OM, le but du 2-0, si je ne me trompe pas. Et tu as dit dans une interview que c'était un des plus beaux moments, si ce n'est le plus beau moment de ta carrière. En tout cas, ce but-là.
Bah, c'est un but décisif, quoi. C'est un but important. À l'arrivée, on gagne 2-1.
Pourtant, tu étais champion de France avec Lyon, donc c'est pour ça que moi, quand j'ai lu ça, ça m'avait un peu surpris.
Non, c'est parce que c'est un truc qui va rester. Je veux dire, champion de France, c'est un truc collectif. Ça, c'est un des rares trucs. Bon, j'ai marqué quelques buts, je n'ai pas assez marqué dans ma carrière. Mais c'est un truc qui a marqué les esprits. Ça restera à vie, les gens dans la rue. En plus, au PSG, je n'ai vraiment pas été bon, quoi. Genre, en faisant ça équilibre le truc. Les gens continuent les gens me croisent dans la rue, ils me disent merci, quoi. Merci pour ce but-là. Parce que...
Moi, je ne te dis pas merci. Hein. C'est un des pires moments de ma carrière de supporter.
Voilà. Mais c'est pour ça que c'est pas mieux, parce que c'est Marseille, c'est PSG Marseille, la première fois dans l'histoire en finale, parce que c'est arrivé depuis. Et moi, je marque ce but-là.
Ouais. Après ton but, je regardais le match avec mon père. Quand tu marques le but, je quitte le salon, je claque la porte je reste pendant peut-être 15 minutes dans ma chambre, genre en mode hyper vénère. Après, je reviens, je me calme un peu. Mais bon, ça n'a pas suffi. Mais là, je t'en ai beaucoup voulu, vraiment. Ça a été le lendemain au lycée, ça a été terrible. Vraiment, ça a été terrible. Parce que moi, j'ai grandi en région parisienne, donc j'allais au lycée en région parisienne, mais ça a été terrible. Ah, terrible, terrible, terrible. Je t'en ai beaucoup voulu, mais bon, t'es tout pardonné maintenant. J'ai mûri. Et...
T'as arrêté de supporter l'OM aussi, j'imagine.
Non, toujours.
Ah bon,
toujours.
Tu dois souffrir, là.
En ce moment, ouais, c'est un peu compliqué, mais après, c'est le football, hein, tu sais, comme ça, c'est des cycles. On fait avec. Voilà, il y a des supporters parisiens, il y a 10 ans, ils pleuraient. Ils priaient pour ne pas aller en Ligue 2. Maintenant, ils sont multiples champions de France. Vrai. C'est comme ça. Mais donc, du coup, l'histoire avec Paris, il y a cette petite éclaircie qui est la Coupe de France. Mais tu l'as dit, ça ne se passe pas très bien. Tu ne joues pas très bien. Et on est obligé d'en parler. La fin est quand même...
Oui, je me fais licencier.
Ouais, tristement historique, en fait. Tristement, c'est compliqué. Comment toi, tu l'as vécu
Je m'en serais bien passé. Ouais. S'il y a un truc... dans ma carrière, si je pouvais changer le cours des choses, ça serait quand même ça, quoi. J'ai pas choisi ma fin de carrière parce que j'ai jamais rejoué depuis. J'ai pas eu le temps de faire un dernier match, quoi. Donc voilà, c'était contre l'OM ce dernier match, et puis après j'ai été licencié. J'ai jamais rejoué. Bon, c'est comme ça. Maintenant, c'est passé. Ouais.
Pour toi, c'était justifié ? Est-ce que...
Ah ben non, c'est pas justifié puisque. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est que je me suis mal comporté. On m'a peut-être poussé à bout ou pas. En tout cas, j'aurais pu faire mieux. C'est pas justifié puisque finalement, on a transigé, ils m'ont payé. Donc ça veut dire que la faute grave pour laquelle ils m'ont licencié, elle a pas été justifiée. Donc
c'était quoi la faute grave qui te reprochait?
Je sais plus. J'avais fait un article.
Critiqué Guy Lacombe.
Guy Lacombe. Donc voilà, c'est trop tard.
C'est comme ça. Ouais. Et t'as essayé quand même après ça de rejouer, mais ça n'a pas trop pris. À ce moment-là, tu te dis, tu t'accroches quand même à l'idée de rejouer au foot
Oui, bien sûr.
Penses déjà au fait que c'est peut-être la fin et...
Je suis allé à Fulham, en fait, je devais jouer. Je me suis blessé le matin à mon essai parce qu'ils voulaient que je joue. Puisque si j'étais pris, comme j'avais pas joué depuis 3 mois, j'ai licencié au mois d'octobre, on était au mois de janvier, je m'étais préparé tout seul. Et donc j'y vais, et le soir, mon agent doit venir pour que je signe le contrat, et je me blesse le matin. Et là, c'est une grosse blessure à la cheville, Et à partir de là, j'ai pas. Après, je suis allé à Livourne. J'ai signé à Livourne, donc avec cette douleur à la cheville. Ils m'ont quand même fait signer un bon contrat pour un joueur qui a 33 ans et tout. Et là-bas, j'ai eu trop mal. J'ai résilié mon contrat. Et après, j'ai arrêté.
Ouais. Et entre le moment où tu es licencié et le moment où tu arrêtes ta carrière, comment, vis-à-vis de tes proches, comment ça se passe en fait? C'est du jour au lendemain, en fait, tu n'exerces plus. En fait, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer pour les footballeurs. C'est-à-dire que en fait, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Ouais. Comment, vis-à-vis de tes proches, ça s'est passé? Comment eux l'ont vécu? Est-ce que
En fait, le jour où ça s'arrête pour tout le monde. Le match du samedi, c'était un vrai rendez-vous pour... quand tu joues la Coupe d'Europe, c'est mercredi-samedi, mais c'était un vrai rendez-vous quoi, pour ma mère, pour mes frères et sœurs, pour mon père, pour tout le monde. Tu vois, ma carrière, c'est tout le monde ensemble. Genre, j'ai vécu ma carrière, je suis parti, je me suis émancipé aussi de ma famille, mais mes parents, ils sont venus au JO, ils sont venus à Milan, ils sont venus à Lyon. Tu vois, c'est ensemble, quoi. Et le jour où ça s'arrête pour tout le monde, quoi. C'est bizarre, hein. Ma mère, le samedi soir, elle ne savait plus quoi faire, quoi. Mon frère, mon père, tout ça, c'était pareil, hein. C'était dur pour eux. Et puis, voilà, il faut passer à autre chose, hein.
Ouais, il y a quel moment...
Ce qui est dur, c'est que moi, j'ai appris à jouer au football, j'ai fait que ça, quoi. Et quand ça s'arrête, t'es jeune et tu sais faire que ça. C'est un trou noir, quoi. C'est brutal. Et en même temps, comment préparer cette fin? Ce qui est fou, c'est que tu sais que ça va se terminer, quoi, un jour. Mais je ne pouvais pas être prêt à ça, quoi. Et tu crois que ça ne va pas se terminer, en fait, sauf que ça se termine.
Surtout qu'en plus, toi, tu n'as pas eu le temps de la préparer, cette fin de carrière. C'est qu'on te l'a limite un peu imposé, quoi.
Ouais, on m'a pas... On m'a pas... Ouais, ouais. On m'a pas... J'ai pas pu préparer la fin de la carrière.
Enfin, tu t'y attendais pas, quoi. Enfin,
voilà, mais bon, ce serait passé la même chose, hein. Ça se jouait à une année, deux années près. J'aurais préparé comment un jour, tu t'aperçois que là, tu vas pas faire de reprise avec tes petits copains. Et puis le samedi, tu seras pas sur le stade, quoi. Tu vois, ça se prépare pas, je pense, hein.
Et du coup, comment tu t'occupes après ça? À partir du moment où tu dis...
J'ai eu beaucoup de chance.
Ouais.
Parce que avec mon film, j'ai commencé à faire un peu de l'audiovisuel. J'ai fait une boîte de production qui s'appelle Trompe le Monde avec Pierre Walfiz, avec qui j'ai écrit le manifeste Tatane. Et puis Bertrand Delanoë aussi m'avait dit à l'époque, quand j'étais au PSG, quand t'arrêteras, tu viendras me voir. Et en fait, il m'a appelé, lui. Donc je l'ai vu et j'ai fait une mission pendant 2 ans. Auprès de la politique de la ville, donc c'était chouette. J'ai commencé à faire 100% foot aussi, et puis j'ai tenu un blog sur lemonde.fr. Donc j'ai écrit un blog qui s'appelait Trompe le Monde, et puis SoFoot aussi. Donc il y avait des choses comme ça, c'était bien pour faire la transition. Puis aussi mes enfants, enfin. Paris, voilà, on s'en sort. Il fallait faire le deuil du foot. Ça a pris plus de temps, quoi. Ça a pris plus de temps.
Combien de temps à peu près, tu sais?
10 ans.
10 ans, donc 2000...
Maintenant.
Ouais, 2008-2018.
Ouais. Il y a un an, peut-être.
Ouais.
Ouais.
C'est long.
C'est long, ouais. C'est long. Je n'ai pas rien fait pendant tout ce temps-là, mais c'est pas facile. D'ailleurs, j'ai écrit ma bio. Je sens que j'ai pu l'écrire parce que j'avais fait le deuil aussi du foot et je pouvais vraiment avoir un regard assez lucide, plus honnête sur ce qui m'était arrivé. Ça me montre que j'ai bien avancé sur ce truc-là. Je crois que c'est du temps pour tout, quoi.
Mais malgré ça, tu as continué à rester, avoir un pied dans le monde du football. Donc, tu l'as dit, SoFoot, ton Tatane,
ouais.
Du coup, ton blog. C'était important quand même de rester dans cet univers-là. Tu ne te voyais pas faire autre chose que de rester dans l'univers du football?
À l'époque, je ne savais rien faire d'autre. Aujourd'hui, je pense que je pourrais faire autre chose.
T'aimerais faire autre chose ?
Je suis prêt à changer aujourd'hui, voilà.
Ouais.
Parce que je crois que on est aujourd'hui dans une société où il faut être prêt à changer. C'est-à-dire, tu peux pas être chaudronnier toute ta vie ou mécanicien. Tu fais plus une formation pour un métier à vie. C'est fini. Et aussi, j'ai moins peur en ce qui va se passer, puisque je l'ai fait, quoi. C'est-à-dire, la peur, je l'ai eue et je l'ai vécue. Ce moment où il n'y a plus rien, où c'est fini le foot. Donc maintenant, je me sentirais capable de faire d'autres choses. Après, j'aime bien ce que je fais, quoi. J'adore rester dans le foot. D'ailleurs, tout le monde n'a pas envie de rester dans le foot. D'ailleurs, on est très peu, en fait, finalement, sur le nombre de footballeurs à être encore dans le foot, soit en étant à la télé, dans les médias, soit en étant agent, dirigeant, entraîneur, etc.
Ouais, et t'aimerais faire quoi, du coup ? Est-ce que t'as des...
Pour l'instant, j'ai envie de rester là. Je continue.
Là ?
Donc, dans le foot, ouais, pour l'instant.
Donc, t'es sur l'équipe, c'est ça ?
L'équipe, Yahoo.
Ouais.
Winamax. Après, j'ai Tatane.
Oui.
Voilà, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Puis après, j'ai ma vie dit... Je veux pas être overbooké, moi. Je suis bien comme ça.
Mais même avec tout ça, t'es pas overbooké, ça fait quand même beaucoup de choses.
Non, je suis pas overbooké. J'ai du temps pour mes enfants, j'ai du temps pour venir aujourd'hui ici. Après, moi, j'ai fait la formation de Denis Troche à Schkort. Denis Troche qui était mon entraîneur au Havre et maintenant qui est préparateur mental, coach. Et moi, j'ai fait sa formation de préparation mentale, management et coaching. Et donc, j'interviens régulièrement aussi. Alors récemment, je suis intervenu sur le changement. Je suis déjà intervenu sur la motivation, sur la confiance, sur la gestion du stress, ce genre de choses. Tu vois, j'aime bien.
Tu peux venir dans le vestiaire de l'OM pour faire une petite préparation mentale pour la fin de saison.
Bah, je crois plus à ça qu'à acheter des joueurs au mercato,
ouais.
Quoi.
Ouais.
Tu vois, je pense qu'ils ont besoin d'un psy. Je pense plus d'un.
D'un coach, je t'allais dire.
d'un entraîneur.
Ouais.
Ils économiseraient de l'argent à travailler sur d'autres leviers. Moi, par exemple, tu vois, sur le mercato, c'est important. Moi, je suis contre le mercato d'hiver. Je trouve ça tellement... Je veux dire, Monaco, là, ils vont acheter plein de joueurs. Et je trouve ça dégueulasse, quoi. J'espère que Monaco va descendre. Parce que...
Ah ouais, quand même.
Ah bah oui. Dijon, tous ces clubs-là qui se battent avec leurs âmes, qui ne vont pas pouvoir recruter... Et bah, les autres, ils vont recruter, ils vont peut-être s'en sortir. Bah, ouais, moi, je serais pour le... moi, je viens d'une époque de nouveau où il n'y avait pas de mercato. Nous, le Havre, on achetait un chômeur. On avait pas de thunes. Lyon, pratiquement, à part Kachapa, qui est venu une année, on n'a jamais pratiquement acheté des joueurs à la trêve hivernale. Et on est allé chercher nos titres sans être, par exemple, premier au championnat au mois de décembre. On est allé chercher le titre de champion. Avec notre effectif, parce qu'on est allé chercher dans nos ressources, dans nos... Je veux dire, l'entraîneur, il est... Je suis sûr qu'il y a des moyens autres que... Je suis sûr que le PSG aujourd'hui peut être champion d'Europe sans acheter un milieu de terrain défensif.
Ah ouais ?
Ouais, j'en suis sûr. Je suis sûr que Tourelle a les moyens d'aller chercher quelque chose avec ces joueurs-là.
Ça, c'est un truc que tu aimerais faire, genre de booster un peu la confiance, le moral d'une équipe ? C'est un truc que pas forcément dans le foot, mais peut-être dans d'autres sports.
J'aimerais bien voir si ma philosophie de vie, ma façon de voir les choses et voir le football, voilà, si c'est possible, si c'est pourquoi pas. Mais bon, pour ça, il faudrait que je m'implique fortement dans un club, entraîner, pourquoi pas. Il faut passer des diplômes, j'y crois pas trop. Hein. Je veux dire, y a plein d'endroits dans la vie où t'as pas besoin de diplôme pour faire plein de choses. Hein. Et heureusement, mais et dans le foot aussi, hein, je ne suis pas sûr que ça s'apprenne. La plupart des très grands joueurs ne deviennent pas des grands entraîneurs. Hein.
C'est vrai.
Tu vois, tout le monde dit « Ah, il faut être un grand… » Non, c'est faux. C'est faux.
Bah, l'histoire l'a souvent montré, en plus, que les grands joueurs ne font pas des grands entraîneurs.
Ouais. Ouais. Zidane est un grand joueur, il est un entraîneur. Mais combien de très grands joueurs ne sont pas devenus des grands entraîneurs ? Mourinho est un grand entraîneur, il n'a jamais joué. Hein. Il va falloir que Thierry Henry prouve qu'il peut devenir un grand entraîneur. voilà, je, moi, je... J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Mais, ou alors aider, aider une équipe. Alors, ça, évidemment, le plus simple, c'est Le Havre. Hein. Moi, je suis né au Havre. Après, j'aime bien vivre à Paris. Hein.
Bah, c'est, t'as dit que c'était 2 heures, ça va. C'est,
ouais, c'est vrai.
Je pense que tu mets le même temps de mots à, je sais pas, à Paris. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais le 7-7, c'est loin. Hein.
Ouais.
Donc, mine de rien, tu peux faire Le Havre à Paris tranquillement. Ouais. Et puis, t'es pas obligé d'y être tous les jours aussi, ouais.
Non, non plus.
Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux auditeurs de Banquette, je sais pas, sur ta carrière, sur toi, sur le football en général? Est-ce que tu as un petit message à faire passer comme ça?
Non, non, pas spécialement. J'aime le foot, quoi. Mmh. Je crois que c'est formidable, le foot. C'est un sport incroyable. Ah ouais, il y a un truc. Qu'est-ce qui est unique au foot comme sport de balle et de ballon?
Bah, c'est qu'il joue avec les pieds.
Ouais, on est d'accord.
Ouais.
Donc voilà, c'est un sport qui se joue avec les pieds. On fait la passe à l'autre. Faire la passe, c'est ce que disait Michel Serres. C'est se lier, se relier. Et c'est faire société. Et c'est un truc très, très fort et très ancré dans ce que j'ai pu faire quand j'étais dans mon quartier. Et ce qu'on fait avec Tatane. Moi, j'ai joué au foot, en fait, pour être avec les autres, pour avoir des copains. Et puis, un petit mot sur l'arbitrage vidéo, quand même. Parce que je suis quand même... Dans 20 ans, les gamins ne sauront même pas qu'un jour, il y a eu du foot sans arbitrage vidéo. Ils diront « Ah bon ?» Parce que ce sera normal, quoi. Ce sera comme ça. Alors qu'en fait, le foot, c'est vraiment un sport qui se joue dans les stades, avec des gens dans les tribunes. Ce n'est pas un foot pour la télévision. Et hier encore, il y avait l'image sur Bernat qui a le pénalty. Et je vois les mecs qui analysent une image arrêtée ou au ralenti, quoi. C'est quand même une image qui n'existe pas. Et ça me fait halluciner, voilà, qu'on en a ça. Mais c'est un vrai problème pour moi de la société. C'est qu'est-ce qu'on fait du progrès? On ne peut pas arrêter le progrès, certains disent non, mais on peut l'utiliser autrement que pour faire de l'arbitrage vidéo ou des vidéos, la vidéosurveillance. L'intelligence artificielle, tout ça, c'est très, très important pour moi. Et je trouve ça dommage, quoi, que ça rejoint ce que fait la FIFA. Parce que la FIFA, à aucun moment, la justice dans le football, j'imagine pas Infantino dans son bureau avec ses petits copains en train de se dire « On va mettre l'arbitrage vidéo, vous allez voir, comme ça, on aura un football plus juste. » J'imagine pas Infantino en train de se dire « Vous verrez, avec l'arbitrage vidéo, Guingamp va pas descendre parce que ce sera plus juste. » Je ne sais même pas où c'est Guingamp, quoi. Donc, c'est évidemment pour autre chose qu'ils le font. Moi, le foot, ça se joue vraiment en temps réel, dans des stades, avec des vrais gens qui jouent, quoi.
On en revient au mouvement dont tu parlais au tout début de l'interview. Ça casse le mouvement, en fait, c'est ça. Le football, ça reste du mouvement, c'est ça.
Non, non, c'est, l'arbitrage vidéo, c'est une image qui n'existe pas, quoi. Le ralenti, ça n'existe pas. Au ralenti, il y a pénalty. Mais non, c'est... à la photo finish, non, mais c'est... Non, l'arbitre... Et moi, d'ailleurs, hier, ils ont pas montré le ralenti. En fait, s'il n'y avait pas de ralenti, si le match, il se passait comme ça, on s'en moquerait, quoi. Moi, j'ai été construit sur l'erreur. J'ai été construit sur l'échec. La main de Maradona, c'est un truc important dans ma vie. De perdre, d'être au stade de foot et de l'arbitre qui ne siffle pas le pénalty alors qu'il y a pénalty, j'étais construit là-dessus, quoi. Et j'ai pleuré. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce sport. C'est pour ça que j'ai aimé le football. C'est pour ça que j'aime la vie, d'une certaine manière. Si on règle tout avec l'arbitrage vidéo, avec... voilà, je vais m'adapter. Hein. Mes filles, imaginent même pas que j'ai pas eu le téléphone portable. Hein. Tu vois, pour elles, c'est normal, quoi. Ils savent même pas que la télé, ça existe, hein, mes filles, hein, quand même. C'est un sketch. Hein, et il va falloir que je vive avec ça, quoi.
C'est la vie, c'est comme ça. Bah écoute, Vikash, voilà. Merci beaucoup d'être merci passé dans Banquette et bonne continuation pour la suite dans tous tes projets,
merci
toutes tes
vous,
aventures.
Puis bonne chance à vous aussi.
Merci beaucoup.
Ça roule bien. Hein.
ça va, on est bien, on est bien. Merci c'est beaucoup, cool. Bah bonne journée.
Merci.
À bientôt, ciao. Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. à la prise de son Ashley Tola, et le tout est monté et mixé par Laurie Galigani. Merci à Vikash Dorasso d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez réagir à cet épisode et notamment l'erreur de citation d'Albert Camus, n'hésitez surtout pas, cela se passe sur nos réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Pensez aussi à mettre 5 étoiles à la banquette sur Apple Podcast. C'est très rapide et ça nous aide vachement. Et puis moi, je vous dis à bientôt, à dans 2 semaines. Ciao !